France Inter. Le 18-20, Fabienne Sintès.
Notre-Dame n'est pas totalement sauvée, c'est Franck Riester qui parle, le ministre de la Culture. Il a fait un point six mois après l'incendie et reconnu que le temps de l'inquiétude n'est pas tout à fait passé. Les points noirs, le gros point noir, c'est cet échafaudage qui était déjà là pendant les travaux sur la flèche avant l'incendie, qui a en partie fondu. L'enlever, c'est pouvoir installer le grand parapluie de protection. C'est extrêmement compliqué, les voûtes menacent au-dessous, bref. Avant même de parler reconstruction, il faut parler consolidation. Et on n'y est pas, c'est un très lent chantier, plombé au sens propre, si bien qu'il nécessite aussi des mesures de précaution qui sont parfois vécues comme d'immenses contraintes. Au passage aussi, le diocèse a dû licencier 38 personnes sur 46. Alors, le délai du coup, les fameux 5 ans promis par Emmanuel Macron sous le coup de l'émotion peut-être, on n'essaie pas trop en parler. Pour l'instant en tout cas, 5 ans ce n'est pas une obsession, là aussi c'est le ministre qui parle. Quant à l'idée de refaire à l'identique ou pas, ce n'est pas encore le débat, mais on peut y revenir si vous le souhaitez. On peut parler argent, on peut parler promesses, c'est comme vous voulez, le téléphone sonne, est à vous, soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Allez, on est parti. Le premier, c'est vous, Jean. Bienvenue au téléphone sonne.
Oui, bonsoir. Ben, merci de prendre mon appel pour vos émissions, toujours de qualité. Voilà, donc la question, c'était est-ce qu'on a des nouvelles de l'enquête est-ce que c'est un peu tôt pour dégager des responsabilités? Bon, l'enquête, elle n'a pas dû être encore menée vraiment à son terme, mais j'ai cru savoir qu'il y avait eu un rapport en 2016 d'un chercheur du CNRS, un Italien, qui avait dit qu'il y avait des risques d'incendie. Et donc savoir si, voilà, par rapport au si qui va payer. Est-ce que c'est les assurances? Est-ce que des bâtiments comme ça sont assurés? Ou si c'est l'entreprise qui a... Enfin bon, ça, faut déjà savoir si elle est fautive. Et sinon, est-ce que c'est l'État, donc nous, qui allons payer, quoi?
Eh ben, on va essayer de répondre à toutes ces questions, Jean, ce qui nous permettra de commencer ensemble ce téléphone sonne pour y répondre, pour être avec nous jusqu'à 20h. Laurent Roturier est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur régional du ministère de la culture pour l'Île-de-France, pardon. Christophe Charles Rousselot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes délégué général de la Fondation Notre-Dame. C'est peut-être pour l'État cette question, Laurent Roturier. D'abord, où est-ce qu'on en est de l'enquête? On était resté sur un mégot la dernière fois qu'on en a parlé. Où est-ce qu'on en est?
Pour vos auditrices et vos auditeurs que je tiens à saluer, une enquête est en cours. C'est l'autorité judiciaire qui la mène. Vous savez qu'il y a la séparation des pouvoirs en France entre l'autorité judiciaire et les autorités administratives et politiques. Et donc, je n'ai pas d'autres éléments que ceux que le procureur a communiqués.
Mais elle n'est pas finie. Il y a toujours des choses à aller chercher, j'imagine, toujours des choses à comprendre. On n'a pas de conclusion.
C'est le procureur de République qui donne les informations au moment où il peut le faire. Je n'ai pas d'autres précisions à vous donner ce soir.
Et alors, quant à cette question légitime de gens qui disent, attendez, mais comment ça se passe un bâtiment pareil? J'imagine que c'est pas assuré comme nous, on assure notre maison. Évidemment, c'est un poil plus complexe que ça. À la fin, est-ce qu'il y a un responsable et donc une personne qui paye? Et la question de Jean au bout, c'est est-ce que c'est moi qui paye? À la fin, est-ce que c'est le contribuable?
Alors, il faut expliquer à vos auditrices et à vos auditeurs que Notre-Dame de Paris, c'est une cathédrale propriété de l'État. Nous avons 89 édifices, 86 cathédrales, 2 basiliques, 1 église qui sont propriété de l'État. Donc, elles appartiennent à tout le monde. Et c'est donc l'État qui en assure l'entretien, qui la valorise, qui restaure les édifices dont il a la charge. Et effectivement, quand l'État intervient, il le fait avec les contributions des Françaises et des Français par l'impôt, qui sert aussi à restaurer, à entretenir le patrimoine en France. Vous savez, c'est plus de 577 millions chaque année qui sont investis par l'État pour le patrimoine.
Alors, et pas seulement Christophe Charles Rousselot, parce que là, il y avait eu très très grosses sommes. D'ailleurs, est-ce qu'on a une idée assez précise de ce qui a été acté, on va dire, dans toutes les promesses qui ont été faites réellement pour Notre-Dame?
Alors, en ce qui concerne la Fondation Notre-Dame, je ne peux pas répondre, bien sûr, pour les autres fondations ou le Centre des Monuments Nationaux, mais Monsieur Roturier a les précisions certainement. La Fondation Notre-Dame a collecté 37 millions d'euros. Elle en a déjà reversé 31 pour contribuer donc aux charges de sécurisation et de consolidation de la cathédrale. nous avons 350 millions d'euros qui sont sécurisés à travers des conventions ou des fondations créées sous égide de la Fondation Notre-Dame. Donc ces promesses sont devenues des engagements grâce à une série de documents sur lesquels nous avons travaillé tous ces mois-ci.
On peut, Laurent Routurier, peut-être avoir... on a une somme finale désormais, en fait, maintenant, après les promesses, après tout ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut dire la somme finale ou même pas encore, peut-être ?
Alors, Franck Riester, le ministre de la Culture, a annoncé hier que nous étions aujourd'hui à plus de 922 millions d'euros qui ont été promis. Sur ces 922 millions, 104 millions d'euros ont déjà été versés. Et cela représente plus de 350 000 donateurs en France et dans le monde entier, ce qui illustre le formidable élan de solidarité et l'intérêt que Notre-Dame de Paris représente non seulement pour les Françaises et les Français, mais pour les citoyens du monde entier.
Et j'imagine, avant de retourner au standard, Christophe Charles Rousselot, on est évidemment incapable aujourd'hui de dire « ça suffira ». Est-ce qu'on a même une vague idée de ça ou pas du tout?
Personne ne peut le dire sérieusement parce que le diagnostic il sera posé à la fin de décembre 2020. À la fin de décembre 2020. Et ça n'est qu'en janvier 2021, je dis ça sous le contrôle du directeur des affaires culturelles, ça n'est qu'en janvier 2021 que le diagnostic posé, on pourra dire, ben voilà, l'addition s'étend, et qu'on se rendra compte ou non si l'argent qui a été collecté suffit. Mais ce qui est frappant, vous voyez, s'agissant de la collecte, on peut-être y revenir, c'est que le flux ne se tarit pas. Il y a une émotion considérable qu'a créé un élan de générosité mondiale. 110 pays, 110 nationalités différentes ont donné.
C'est bien de le rappeler.
La Corée du Sud, le Brésil, il n'y a pas que l'Amérique latine, bien entendu, l'Europe. Mais proportionnellement, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, vous voyez, c'est cette diversité incroyable qui correspond à la diversité des touristes à Paris. On peut le comprendre comme ça.
Et le fait que ça continue aujourd'hui encore.
Alors voilà,
en fait,
il y a 200 dons par semaine, un peu moins de la moitié par chèque, donc essentiellement la France. On aime beaucoup les chèques. Encore en France, et puis le reste dons par Internet, vous voyez.
Allez-y, pardon, Laurent Routurier.
Non, je crois qu'il faut aussi rassurer vos auditrices et vos auditeurs. L'État ne laissera pas la cathédrale Notre-Dame dans la restauration terminée, avec les dons qui sont extrêmement élevés qui ont été donnés. Évidemment, l'État, le ministre l'a rappelé hier, assurera ses responsabilités.
Et on imagine bien que vous n'avez pas la laisser moitié finie, enfin, ou moitié pas finie, on prendra la bouteille dans le sens où on voudra. Bonsoir Michel. Michel, est-ce que vous êtes là? Michel, est-ce qu'on a Michel? Ben, on n'a pas Michel, donc Nicolas peut-être.
Oui, bonsoir.
Ah, ben qui est là alors? Attendez, il y a trop de monde. On va le faire dans l'ordre. Michel d'abord, est-ce que vous êtes là?
Oui.
Ah, allez, c'est parti. Allez-y, Michel. Nicolas, je vous ai pas oublié, c'est juré. Allez-y.
Oui, bonsoir. Oui, ben merci pour vos émissions déjà. Moi je m'inquiète un peu parce que Notre-Dame, c'est quand même un édifice gothique absolument formidable, quoi. Et je m'étonne d'avoir entendu les responsables politiques parler d'une reconstruction avec une modernisation. Alors, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on va vers une espèce de distorsion du droit en France, parce que l'État qui régit les bâtiments de France, est-ce qu'il va s'autoriser, est-ce qu'il refuserait à un tiers ou à une collectivité territoriale? Et à quel titre? Et pourquoi pas simplement la refaire à l'identique, au moins pour son image un peu extérieure? Et là, moi, je me souviens de l'incendie du Parlement de Rennes. On a refait le Parlement de Rennes à l'extérieur. On a l'impression qu'il a toujours été comme ça, quoi. Alors, est-ce que ça peut pas être pareil pour Notre-Dame?
Merci beaucoup, Michel. Moi, je suis fasciné par la question de Michel, Laurent Routurier, parce qu'on avait déjà cette même discussion il y a 6 mois. Et au fond, tout ce laps de temps, toute cette difficulté, toute cette lenteur. Bon d'accord, c'est une chose, mais l'important c'est de savoir à quoi ça va ressembler derrière. Ce débat-là existe encore, a-t-il été tranché, au moins par exemple sur la flèche?
Alors, il faut rappeler que beaucoup de choses ont été faites en 6 mois. C'est vrai qu'on aimerait que tout soit fait immédiatement, mais le temps du patrimoine n'est pas exactement le temps auquel nous sommes habitués aujourd'hui de l'immédiateté. Sur Notre-Dame, il faut bien savoir que nous ne parlons pas en termes sémantiques de reconstruction. Nous parlons, dans le champ patrimonial, de restauration. Et donc, le parti de restauration, ça prend un petit peu de temps, mais il faut que j'explique pourquoi à vos auditeurs. Le patrimoine, par définition, est fragile. Il a été transmis par les générations qui nous ont précédés et nous devons les transmettre à celles et ceux qui arrivent. Et pour cela, nous avons besoin de l'avis d'un collégial de beaucoup de spécialistes, des monuments, mais aussi de pouvoir en discuter avec l'ensemble des parties prenantes, l'État, la ville de Paris, l'ensemble des interlocuteurs et celles et ceux qui, demain, vont lancer la restauration et l'architecte en chef, bien sûr, a son mot à dire. Mais au final, c'est bien l'État, et qui ne s'exonère pas des règles, puisque l'établissement public est sous tutelle du ministère de la Culture et respecte évidemment le code patrimoine, l'État ne s'exonère pas de ces règles-là pour lui-même.
Christophe Charles Rousselot, j'allais dire, par ailleurs, on n'en est pas là encore à ce débat, on n'en est pas encore effectivement à cette restauration-là. Mais au fond, on a l'impression que c'est la grande frayeur des gens, et en tout cas, ces deux idées persistent toujours dans les discussions. Faut-il moderniser, ne serait-ce qu'un peu, faut-il refaire le parfait identique?
Oui, mais déjà dans les débats à l'Assemblée, qui c'est quand même la représentation
déjà,
du peuple.
Pendant l'incendie, on en parlait déjà.
Oui, bien sûr, mais on voyait les choses s'écrouler et on voulait qu'en un jour, les choses peut-être redeviennent comme avant. Mais déjà dans les débats à l'Assemblée, cela perçait. Le « à l'identique », qu'est-ce que ça signifie ? Retrouver la cathédrale comme on la connaissait le 14 avril, certes, mais... Les matériaux d'aujourd'hui n'étaient pas à la disposition de Viollet-le-Duc au 19e. Enfin, j'enfonce une porte cochère quand je dis ça.
Ouais.
Mais donc, on peut penser qu'il y aura des matériaux peut-être différents, ou en tout cas une qualité différente. C'est pas la première cathédrale qui a brûlé. Celle de Nantes a brûlé en 72, c'est pas si vieux que ça. On a refait, donc il y a eu un choix qui a été fait, que je discute pas, de toute façon il est là. Mais en tout cas, ce qui est important de noter, personne ne peut s'opposer à ça, c'est que on tienne compte des risques d'incendie possibles. En 2040, qu'est-ce qui nous dit qu'il y aurait pas un autre problème lié à un incendie? Ça veut dire qu'il y aura des colonnes sèche pour que les pompiers puissent mieux travailler, des portes coupe-feu, voyez. Donc forcément, on évolue et le à l'identique doit intégrer, me semble-t-il, ce genre de précaution.
Allez, Nicolas, je ne vous ai pas oublié. Bonsoir, c'est à vous,
merci,
allez-y.
Merci de prendre ma question, bonsoir. Alors, ce que je voulais poser comme question, ça rejoint un peu le débat que vous avez actuellement, mais c'est pour savoir qui aura vraiment le mot final sur la reconstruction de la cathédrale. Est-ce que c'est l'État ? Est-ce qu'il y aura une consultation citoyenne ou est-ce que l'Église a un mot à dire là-dedans ?
Merci beaucoup Nicolas pour cette question. C'est l'État qui va vous répondre, Laurent Roturier. Qui à la fin ? Alors vous l'avez dit, il y en aura des architectes, il y en aura des choses qui seront discutées. Tout ça ne va pas se faire sur un coin de table dans un bureau de l'Élysée. Mais à la fin, le final cut, il est acquis.
J'insiste, on parle de restauration et non pas de reconstruction. À la fin, c'est l'État qui aura le dernier mot. L'État, dans toutes ses composantes, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Culture, le préfet de région, la DRAC, l'architecte en chef, bien sûr, le clergé affectataire, le diocèse, la ville de Paris. Et puis, le ministre a souhaité que ça soit très largement débattu, et je crois qu'on aura aussi à recueillir l'avis des Françaises et des Français sur ce sujet-là, qui est un sujet de passion. Mais si vous me le permettez, je voudrais vous relire...
C'est intéressant, une sorte de référendum, en quelque sorte, pour savoir à quoi vous risquez d'avoir 60 millions de cathédrales.
Ah, je crois qu'aujourd'hui, en France, 66 millions de Français ont leur idée bien arrêtée sur à quoi doit ressembler la cathédrale une fois qu'elle sera restaurée.
66 millions de sélectionneurs de foot, 66 millions d'architectes. Juste
voilà.
un mot de Christophe Charles Rousselot. On va revenir.
C'est un héritage qui relie tous les Français, les croyants comme les non-croyants. C'est une évidence biblique, si on me permet de prendre cette comparaison. Pour autant, c'est un bâtiment cultuel dévolu au culte catholique. Et évidemment, personne n'imagine autre chose. C'est pas un musée, c'est une église, c'est très vivant. Il y a des offices qui sont célébrés. Dans le même temps, il y a des touristes qui visitent avec respect, qui prennent des photos. Voilà, c'est sa vie, une cathédrale. Et donc, personne n'imagine que ça puisse être autrement dans son affectation et dans sa destinée.
Vous n'aviez pas fini, Laurent Roturier, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non, parce qu'on évoquait l'œuvre de Viollet-le-Duc, qui a beaucoup agi, à Saint-Sernin, qui a agi à Carcassonne, à Toulouse, enfin, qui a fait beaucoup de choses. Et il avait cette phrase que je trouve magnifique, il disait que finalement, restaurer un édifice, ce n'est pas uniquement l'entretenir, le réparer ou le refaire, c'est le rétablir dans un état complet, qui peut ne jamais avoir existé à un moment donné. Qui peut. Voilà. Il donnait toutes les possibilités ouvertes et c'est ce travail-là que nous allons engager maintenant, une fois que nous serons sortis du péril imminent qui est encore en cours sur cette édifice.
Parce qu'on est d'accord, effectivement, on n'est pas sorti. C'est ce que disait d'ailleurs Franck Riester, on n'est pas sorti du... ça s'appelle comment d'ailleurs ? On n'est pas sorti du péril réellement,
on
toujours
est en, ça s'appelle,
on est toujours en péril imminent,
c'est
en
un,
fait.
C'est un péril, d'accord. C'est un arrêté de péril. On en sera sorti. On a encore deux étapes délicates. La première, c'est de réussir le démontage de l'échafaudage, qui a été, comme l'a rappelé M. Rousselot, qui a fondu. Ouais. Je suis allé voir sur place, effectivement, il a été extrêmement affecté.
Ce qu'il faut rappeler aux gens, parce qu'on a tous un peu la mémoire courte, il y avait déjà un échafaudage à l'intérieur de la cathédrale, puisqu'on était en train de restaurer la flèche, et la voûte est dessous.
Et donc, heureusement, l'échafaudage a été posé avec beaucoup de précautions, et il n'était pas attenant à la flèche. Il n'était pas joint à la flèche. Donc, la flèche s'est effondrée, mais l'échafaudage, lui, est resté en place. Il a fondu. C'est une opération très délicate. Et il faut comprendre aussi, pour vos auditrices, vos auditeurs, que ça prend du temps de définir le protocole pour la sécurité de l'édifice, mais aussi pour la sécurité, moi je pense beaucoup aux compagnons, aux ouvriers. On a des entreprises extraordinaires dans le champ des monuments historiques en France, c'est pas assez connu. Nous avons sûrement les meilleurs spécialistes, et il faut prendre beaucoup de précautions, notamment d'avoir des cordistes qui vont pouvoir ensuite intervenir, donc ça va prendre entre 4 et 6 mois.
Pardon de poser la question comme ça, mais parce que si on va trop vite, quoi, c'est comme un mikado en quelque sorte, c'est-à-dire si on bouge un élément trop vite ou comme il ne faut pas, ça risque d'effondrer. La conséquence, ça peut être quoi en fait? C'est toucher la voûte au-dessous,
La voûte a été effondrée.
Alors qu'elle a déjà été effondrée, bien sûr.
Donc il ne faut pas fragiliser en plus un édifice qui a déjà beaucoup souffert. Donc c'est pour cela que l'on prend toutes ces précautions, mais avec encore une fois beaucoup d'attention de la part de l'architecte en chef des monuments historiques, des équipes de la DRAC, tout le monde fait extrêmement attention pour mettre un protocole qui garantira la sécurité des compagnons et des ouvriers et la sécurité de l'édifice lui-même. Donc ça prend un petit peu de temps, pas beaucoup, mais il faut aussi l'accepter.
Un peu quand même, Christophe Charles Rousselot. Vous vouliez ajouter quelque chose? Vous vouliez réagir
non,
à ce que
je
disait
pense
Laurent
que dans l'histoire de la cathédrale, on est en 2019, mais si on se penche sans aller vers des travaux scientifiques, mais sur l'histoire de la cathédrale, il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis depuis l'incendie. On se rend compte que ça n'a pas été un long fleuve tranquille dans l'évolution depuis le XIIe siècle. Donc il faut se replacer dans cette perspective-là, et puis tout en tenant compte, bien sûr, du travail extraordinaire qui a été fait par Viollet-le-Duc.
Alors est-ce qu'on peut essayer de voir les étapes, en fait, parce que en effet, dégager l'échafaudage, c'est d'abord, de toute façon, il faut le dégager, mais c'est aussi la possibilité de faire quoi, en fait? C'est de poser ce fameux parapluie qui permettra enfin de travailler dans de bonnes conditions. L'étape derrière, en quelque sorte, donc post-échafaudage, est-ce que ce sera encore une étape de consolidation? On en sera où à ce moment-là?
Non, ça a déjà été réalisé. On a posé un plancher qui est appuyé sur les murs gouttereaux qui sont au-dessus des voûtes hautes de la nef, du chœur et de deux transepts. Il y a eu un bâchage de réalisé. Il y a eu
des installations. Mais ce n'est pas le grand parapluie ici, c'est le même?
Non,
c'est la
alors
même chose
là, pour pouvoir démonter l'échafaudage.
D'accord.
Et ensuite,
on est d'accord.
Voilà, donc déjà la cathédrale est déjà protégée par rapport aux jours qui ont suivi l'incendie. Ce que l'on a ensuite à réaliser, c'est effectivement d'enlever l'échafaudage dans les meilleures conditions, de pouvoir ensuite travailler sur l'édifice en le bâchant, en protégeant là aussi les endroits qui sont encore fragilisés.
Bonsoir Christian.
Oui, bonsoir.
Soyez le bienvenu Christian.
Je remercie France Inter de prendre ma question. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur plutôt.
Bonsoir.
Oui, moi je reviens un petit peu aux responsabilités quand même, parce que bon, j'ai travaillé dans les milieux financiers, je me suis penché un peu sur les bilans des sociétés qui sont intervenues sur Notre-Dame, qui sont filiales l'une de l'autre d'ailleurs, je ne citerai pas leur nom. C'est des sociétés, il y en a une qui fait 11 millions de chiffre d'affaires, c'est dérisoire. Alors peut-être que ce sont des gens très compétents, je vous parle pas des bénéfices qui sont en revenant. Bon, voilà, donc on parle d'un mégot. Comment sont choisies ces sociétés, en fait? C'est des marchés publics, au moins 10 ans, en fait, ou voilà. Donc, quelle est un peu la procédure? Et est-ce qu'on n'a pas trop entendu parler non plus de mesures à prendre pour les autres monuments qui ont peut-être aussi les mêmes fragilités qu'avait Notre-Dame en termes d'équipement, de sprinklers, je sais pas. Donc, on a beaucoup déploré, on n'a pas beaucoup, me semble-t-il, dit quelles mesures on allait prendre. Voilà.
Merci pour votre question, Laurent Roturier. On veut vous faire revenir en arrière. En fait, tous ces gens qui travaillaient sur la cathédrale à ce moment-là, qui sont-ils?
Alors, sur la première partie de la question, qui est la question financière, là aussi, je voudrais rassurer, tout est extrêmement transparent. Nous sommes dans le code des marchés publics et les entreprises qui agissent depuis le 15 avril sont dans les dispositions qui est prévues dans ce genre de circonstances exceptionnelles, malheureusement, c'est l'urgence impérieuse.
Moi, j'ai compris aussi que dans la question de Christian, il y avait les entreprises qui travaillaient déjà, en fait, et qui donc, pour certaines, ont une part de responsabilité. Là aussi, quand on est sur des chantiers de ce genre-là, avant l'incendie, donc, marché public, etc., etc.,
oui,
appel d'offres.
Oui, effectivement, nous sommes dans le droit commun du code des marchés publics et il n'y a pas d'exception à cette règle-là. Ce qui s'est passé avant, encore une fois, c'est l'enquête qui le déterminera. Moi, je vous parle de ce que l'on a mis en place au ministère de la Culture, un DRAC, depuis le 15 avril, et effectivement, ces engagements se font sous le régime de l'urgence impérieuse.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a eu le souci que, bien sûr, c'est la responsabilité de l'État et personne ne doute qu'il n'honore pas sa signature en payant les entreprises, mais pour toutes celles qui sont intervenues très vite dès le lendemain de l'incendie, nous avons tenu notamment à verser ce qui était demandé par l'État pour que les entreprises soient payées au plus vite. Avant même, vous voyez, qu'on ait finalisé la convention cadre qui a été signée par Monseigneur Aupetit et Monsieur Riester, le ministre de la Culture, à la fin du mois de juillet.
Alors, il y a même eu un passage quand même, moi je reviens un peu cet état du chantier aujourd'hui, où il a été beaucoup reproché, et notamment d'ailleurs à la DRAC, que les choses soient extrêmement lentes, que tout ça soit extrêmement procédurier. Alors bien sûr que j'imagine qu'il y a des procédures, des choses à suivre. On a eu 300 tonnes de plomb qu'il a fallu gérer, ce sont des choses qui sont très compliquées. Mais on a bien vu au moment que même Franck Riester avait fini par prendre sa plume et essayer de faire en sorte qu'il y ait quelques accommodements, en quelque sorte, qui soit fait. Est-ce qu'on peut imaginer que ce chantier-là n'est pas un chantier banal au fond, et qu'on puisse se permettre quelques accélérations, on va dire, et sortir des pesanteurs administratives qui sont parfois le fait de l'État, Monsieur Roturier?
Je vais reprendre une métaphore sportive que Franck Riester a employée hier. La restauration de Notre-Dame, c'est un marathon. Mais c'est un marathon qui a débuté.
Parti comme des sprinteurs, c'est ce que j'ai lu aussi.
Qui a débuté par un sprint et par une course contre la montre. En même temps, il fallait, dans un temps très court, faire en sorte que l'édifice ne soit pas plus abîmé qu'il ne l'était par l'incendie. Donc il faut aussi s'inscrire dans ce marathon-là. Et effectivement, une fois l'urgence immédiate passée, nous sommes rentrés dans le cadre d'un chantier tout à fait classique, avec le sujet du plomb est bien connu des entreprises qui travaillent dans le champ des monuments historiques. Là, sur un chantier de cette ampleur-là, il y avait des règles à mettre en place, et c'est ce que le préfet de région a effectivement mis en place avec l'ensemble des services de l'État, de manière à ce que la santé et la sécurité des travailleurs, des compagnons, des ouvriers, des artisans qui sont sur le chantier soient une priorité absolue de l'État. Donc ça a pu amener effectivement quelques interrogations au moment où il a fallu sortir de l'urgence pour rentrer dans un chantier
de plus long terme. Il y a eu de la tension
sur
ce chantier en fait, hein. C'est ce qu'on voit ici et là, c'est ce qu'on a pu lire, il y a eu de la tension sur le chantier, c'est pas toujours facile, il y a eu des incompréhensions. Moi, l'exemple que vous avez lu comme moi probablement au moment où je parlais de la lettre de Franck Riester, c'était par exemple que quand on travaille dans un endroit qui est contaminé au plomb, il faut évidemment après passer à un sas de décontamination, c'est très compliqué, sauf que les toilettes bêtement étaient après le sas, du coup il faut passer par la décontamination, c'est ridicule, donc on a juste avancé les toilettes. Vous voyez, de ce genre d'exemples de ce genre-là qui font qu'un chantier devient subitement problématique pour des détails en fait.
Pas subitement problématique, par nature un chantier patrimonial est un chantier complexe. Les entreprises le savent, ils ont l'habitude, et là on avait un niveau de complexité sûrement plus élevé que sur d'autres chantiers, ce qui peut amener quelques interrogations, quelques discussions, quelques débats. Mais vous savez, pour avoir suivi un grand nombre de chantiers partout en France sur nos édifices patrimoniaux, je peux vous témoigner que c'est parfois des discussions vives, mais c'est parce que nous avons aussi des personnels, des agents passionnés et qui cherchent les meilleures solutions pour l'édifice.
Bon, pardon, allez-y.
Oui,
pardon,
on parle de ce qui ne va pas et c'est normal parce qu'on souhaite que le chantier s'intensifie, bien entendu. Pour autant, on a été très frappés les premiers mois et de nombreux témoignages allaient dans ce sens, du patron jusqu'à tous les ouvriers, de ceux qui intervenaient, des compagnons de devoir, de leur joie de travailler pour la cathédrale. Voyez. Il faut aussi retenir ça.
Il paraît que la charpente est devenue un outil pédagogique.
C'est
même,
tout sauf un chantier banal, ça tout le monde l'a compris, mais il y avait un cœur à l'ouvrage, vous voyez, au sens le plus fort de l'expression.
Et il y a toujours, et il y aura pendant le temps qu'il faudra. Bonsoir Olivier.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi j'avais une question autour de l'après Notre-Dame, c'est-à-dire il y a eu ce drame, et la perte énorme de cet incendie, c'est évidemment la charpente, la fameuse forêt. Ça de toute façon c'est une perte sèche, hein. jamais plus on pourra récupérer ça, c'est parti en fumée. Et je me dis, est-ce qu'il y a eu du coup une évaluation sur les autres monuments du même type, hein, les cathédrales ou des châteaux, je sais pas, pour lesquels ce risque incendie soit un peu mieux maîtrisé, quoi. Est-ce que en gros, est-ce que après Notre-Dame, il y a une analyse des risques qui est faite sur les autres grands bâtiments français?
Merci beaucoup pour votre question, Laurent Roturier. Je sais bien que vous êtes cantonné à votre île de France, si je puis dire. Je ne vais pas vous sortir de votre zone de confort, mais on a regardé toutes les cathédrales ou pas?
Non, la réponse est évidemment oui. Dès le lendemain de l'incendie, j'étais précisément dans notre fonction en Occitanie. Nous avons procédé à l'examen de toutes les cathédrales, des 14 cathédrales de ce territoire. Ça a été fait partout en France, de manière, avec les commissions de sécurité, les SDIS, les préfets de département, pouvoir faire un état des lieux. Et le ministre l'a dit hier, nous avons fait, donc dans les 6 mois écoulés, un audit extrêmement approfondi, qui sera rendu public, qui sera mis en ligne sur l'état des 89 édifices qui sont affectés au culte, sur les travaux qui restent à faire. On parle des édifices, mais il faut savoir aussi que nous avons mis en place, et ça a particulièrement bien fonctionné pour Notre-Dame, des plans de sauvegarde des œuvres. Les 1300 objets mobiliers de Notre-Dame ont été mis en sécurité grâce à ce travail-là aussi. Alors, qui n'est pas spectaculaire, mais qui avait été fait
même,
en amont.
Le soir même d'ailleurs, non? Ou très peu de temps après, soir même, ouais.
Et ces objets-là sont protégés parce que nous avions travaillé à la DRAC, très en amont, depuis plusieurs années, avec les pompiers, pour définir les œuvres là où nous pouvions les enlever, les déposer en cas d'incendie. Donc c'est un travail qui va se poursuivre. La sécurité incendie est une vraie préoccupation. Elle n'est pas nouvelle d'ailleurs, Monsieur Rousselot l'évoquait, mais nous avions mis en place des procédures, des permis de feu pour les chantiers, de manière à ce que ce risque soit le plus limité. Le risque zéro n'existe pas. On intervient sur du patrimoine fragile. On prend toutes les précautions possibles et malheureusement, il peut se produire un drame tel que celui de Notre-Dame. Il faut aussi en avoir conscience.
Il y a une précaution qu'on avait prise, mais sans savoir que c'était une précaution, c'était de chercher du mécénat pour les évangélistes qui sont autour de la flèche. Il y avait les 12 apôtres, vous savez, et 3 jours avant l'incendie, eh bien, ils ont été retirés. Pourquoi ? Parce qu'on avait collecté de l'argent aux États-Unis pour ça, et aussi en France, et l'incendie est arrivé 2 jours après. Ça veut dire que ça aurait été autant de plomb, indépendamment de la perte infiniment dommage, évidemment, de toutes ces statues, ça a été du plomb en moins qui a pu couler, et donc ces statues sont à Périgueux aujourd'hui, en train d'être restaurées, et elles reviendront un jour.
Voilà, question rapide de Dominique. Bonsoir Dominique.
Bonsoir.
On vous écoute, allez-y.
Bonsoir à tous, enfin à chacun, chacune. Moi, je voudrais revenir sur un aspect du problème qui a déjà été évoqué en début d'émission, à savoir les donateurs, les généreux donateurs. J'aurais souhaité savoir si le Vatican s'était proposé d'apporter une quelconque aide financière, parce qu'on n'en a absolument pas entendu parler. En tout cas, pas moi.
Si, Dominique, Christophe Charles Rousselot, c'est pour vous.
Alors, moi non plus, on n'a pas eu de mail ni de coup de fil du Vatican nous annonçant d'argent, ce qui, en fait, n'est pas du tout surprenant parce que le Vatican n'est pas là pour ça, et notamment pour les pays d'Europe jugés, à tort ou à raison, riches, voyez. Et donc, on en fait partie, quelle que soit la situation, parfois compliquée, de beaucoup de gens, de notre pays.
Mais vous l'entendez, la question en creux de Dominique, alors, qui dit, mais c'est pas l'État qui doit s'occuper de ça, mais c'est l'Église, etc.
C'est l'Église. Voilà. Eh bien, je puis vous dire, madame, que de très nombreux diocèses et d'archidiocèses aussi, comme on dit, du monde entier, ont envoyé d'abord à Monseigneur au Petit des tas de témoignages de soutien moral et l'assurer de sa prière, ce qui est déjà un point évidemment très important. Et puis un certain nombre d'entre eux ont fait des dons, alors incroyablement variables. Nous allons éditer un ouvrage à la fin de l'année qui sera disponible dans un certain nombre de librairies qui va restituer un peu l'élan qu'on a pu connaître et le contexte de crise, il faut bien dire, qu'on a pu vivre depuis le 15 avril. Et il y aura 2 pages consacrées à ce sujet, donc je vous invite à le consulter.
Eh ben écoutez, ce sera avec plaisir et on ira faire un tour. C'est marrant parce qu'elles sont toujours récurrentes, Laurent Roturier, ces questions-là sur, attendez, est-ce que c'est vraiment à nous? Alors vous nous avez expliqué effectivement que tout ça était propriété de l'État, mais est-ce que c'est vraiment à nous de nous occuper de tout ça? Est-ce que c'est vraiment nous qui devrons mettre au bout lorsque peut-être les 922 millions et autres ne seront pas, seront dépensés ou pas? Vous savez qu'il faudra revenir là-dessus, qu'il faudra réexpliquer en fait ces choses-là beaucoup de fois au fil des travaux et de la restauration.
Mais Notre-Dame, qui est un drame terrible, a aussi une vertu. C'est qu'il met en lumière l'extraordinaire attachement qu'ont les Françaises et les Français pour leur patrimoine. Quand on voit la mission que Stéphane Bern a conduite, comment cet élan formidable dans les campagnes, dans les petites villes, dans les centres anciens, a produit de l'intérêt, on ne peut aussi être optimiste sur la capacité que nous aurons collectivement, et encore une fois, l'État prendra ses responsabilités. J'ai évoqué tout à l'heure le chiffre de 577 millions d'euros que nous investissons chaque année pour le patrimoine. Donc, nous le faisons collectivement, et à l'arrivée, ça permet d'avoir un pays qui est rendu encore plus beau et qui fait en sorte que dans le monde entier, on vient en France pour la qualité de son patrimoine, de ses paysages. Et c'est le rôle du ministère de la Culture, des DRAC, de le préserver, de le valoriser et de le transmettre à celles et ceux qui seront après nous demain. C'est ça l'essence du patrimoine.
Qu'est-ce qu'on fait de ce fameux délai de 5 ans dont on se souvient qu'il a été aussi dit dans l'émotion du moment? Est-ce qu'il faut d'ores et déjà l'oublier et dire qu'on n'a pas idée, on ne sait pas, on ne peut pas donner de deadline en fait? Faut-il à un moment que ce discours-là change et qu'on dise « on ne peut pas vous donner de date »
Le président de la République a eu raison de mobiliser l'ensemble des administrations, l'ensemble des services autour d'un délai pour que Notre-Dame soit rendue à toutes et à tous. Non seulement aux croyants, aux pratiquants, mais Notre-Dame nous dépasse tous. C'est un symbole qui réunit l'humanité entière. Et donc je crois qu'il fallait aussi donner ce signal que l'État ne laisserait pas Notre-Dame dans un état dégradé pendant trop longtemps. Donc ce calendrier de 5 années... Vous savez, j'évoquais tout à l'heure la question du marathon. Mmh. Quand on démarre un marathon, on se fixe des objectifs. Mmh. Parfois...
Et j'ai parfois, on tombe sous les deux heures.
On tombe sous les deux heures. Exactement. Vite, ça peut peut-être aller plus vite que 5 années. Qui sait?
Là-dessus, Christophe Charles Rousselot.
Voilà, c'est ça. C'est un marathon. Il faut le courir. C'est 42 kilomètres, un marathon. Mm-hmm. Hein, donc, faut étaler ses réserves, son énergie sur cette durée-là. Alors. Peut-être que ce sera moins de 5 ans. Moi, je trouve bien que que le président de la République ait donné un cap dans la vie. Il faut se donner des objectifs. Hein, tout le monde le sait. Et peut-être que dans 4 ans, si les autorités nous le permettent, nous pourrons à nouveau célébrer dans un endroit sécurisé. Personne n'imaginera qu'on prendrait le moindre risque, évidemment. Peut-être que des personnes pourront en visiter ou apercevoir de l'intérieur une petite partie dans moins de 5 ans.
Bonsoir, François.
Bonsoir.
Allez-y, François, on vous écoute.
Oui, je vous appelais au sujet des deux orgues que contient Notre-Dame de Paris. Il y a le grand orgue de tribune, que tout le monde connaît, et un plus petit qui s'appelle l'orgue de chœur. Et ils ont été restaurés relativement récemment, l'un comme l'autre. Et je voulais savoir dans quel état se trouvaient ces instruments, c'est-à-dire si le grand orgue avait été touché, bien qu'il soit un petit peu en retrait du sinistre, et ce qu'était devenu le petit orgue de chœur, lui était vraiment pas loin du cœur, justement.
Merci beaucoup, François. Christophe Charles Rousselot, moi j'avais cru comprendre après l'incendie que c'était sauvé pour les orgues.
Alors, les orgues sont sauvés, mais Monsieur Roturier le précisera dans un instant. Pour autant, ils sont très abîmés par la poussière et probablement du plomb, la poussière du plomb qui s'est déposée, très abîmée par l'humidité. Un tuyau d'orgue, ça peut être en métal, c'est quand même très fragile, c'est toujours un peu curieux, mais c'est comme ça. Mmh. Et donc, il y a un travail de relevage, comme on dit, des orgues à minima à faire, c'est-à-dire d'un entretien très approfondi, ce qui est infiniment désolant, c'est que il y a très peu d'années, tout avait été reconçu, tout en gardant évidemment les jeux d'orgue tels qu'ils sont. Le buffet avait été restauré. Enfin, il y avait un travail magnifique réalisé. Et donc là, il va falloir évidemment reprendre les choses.
Mais dans ces
pour
cas-là...
autant, il n'est pas compromis. Ouais. S'agissant de l'orgue de chœur, je n'ai pas des éléments d'information suffisants pour malheureusement répondre précisément.
Mais dans ces cas-là, il est quoi ? Il est donc, vous avez dit effectivement, c'est la poussière, c'est le plomb. Est-ce que l'instrument est aussi tordu ? Donc il faut.
Alors là aussi. C'est à la fois rassurant et préoccupant. Rassurant parce que le grand orgue a été protégé. Mmh. Il a été protégé de l'incendie et il a été protégé de l'eau déversée par les pompiers. En revanche, il a souffert de la poussière et de la poussière dans laquelle il y avait effectivement du plomb. Mmh. Donc, le protocole que l'on est en train de travailler, on y fait extrême attention. C'est un objet magnifique, un des plus beaux orgues en France, certainement dans le monde. Nous y faisons extrêmement attention pour démonter chacun des tuyaux, pour pouvoir ensuite les dépoussiérer, les nettoyer et les réinstaller une fois que l'édifice aura été...
C'est la question que j'allais vous poser, en fait. Il faut tout redéfaire pour tout refaire, en fait.
Il faut le défaire parce qu'il n'a pas souffert physiquement. Il n'a pas été abîmé ni par l'incendie, ni par le feu, ni par l'eau, mais la poussière de plomb, et vous le savez, dans un orgue, dans un tuyau, c'est extrêmement
Mais ça a commencé, difficile. Ça, ou pour l'instant, on n'y a pas touché,
en fait Nous sommes en train de finaliser le protocole. D'accord. Là aussi, c'est comme l'échafaudage, on prend beaucoup de précautions, on s'entoure des avis des spécialistes. L'orgue est vraiment un sujet pour la DRAC extrêmement de vigilance et de préoccupation, et nous allons le faire dans les semaines qui viennent.
Parce que je me demandais si ça pouvait empirer, en fait, ou si, au fond, le moment crucial, le moment critique, c'est effectivement la période de l'incendie, c'est d'échapper à l'eau, comme vous dites,
à l'eau et
au feu, bien sûr, et à l'eau. Et puis après, une fois que le plomb s'est déposé. Donc est-ce que, pardon de le dire comme ça, qu'on le fasse maintenant ou dans 3 mois, au fond, est-ce que ça change quelque chose pour la qualité de cet orgue ou pas?
Vous savez, les orgues sont aussi extrêmement particulièrement sensible à l'hygrométrie, mm-hmm. aux variations de température, qui sont d'habitude plutôt stables mm-hmm. dans une cathédrale.
Alors que là, on est en plein vent.
On est ouvert, hein, mm-hmm. la voûte a été effondrée partiellement, donc on est ouvert, et donc on ne peut pas le laisser trop longtemps dans cet état-là. Mais c'est effectivement une vraie question, et sur laquelle nous sommes actuellement en train d'édicter le protocole pour préserver, protéger, restaurer, et ensuite réinstaller, bien sûr, mm-hmm. l'orgue qui est magnifique.
Il y a une autre question qui me vient, mais on va prendre celle de Benoît d'abord. Bonsoir Benoît.
Oui, bonsoir.
Allez-y Benoît.
Je me permets une petite question technique.
Allez-y.
J'ai cru comprendre que lors de l'incendie, un système d'extinction incendie n'était pas dans la cathédrale. Il y avait juste un système de détection d'incendie. Est-ce qu'à l'avenir, ce genre de système, pour éviter que l'incendie ne se propage au cas où il se répète, est-ce que ce genre de système est prévu dans la future cathédrale?
Merci beaucoup Benoît. Je ne sais pas si on sait déjà quel sera le système. Et moi, quand on parle d'extinction, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui tombe. Est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir un système de ce genre dans un bâtiment de ce type, en fait? Non, j'en sais rien. Je ne vais pas vous piéger, mais...
Alors, on a beaucoup de systèmes de protection dans les cathédrales. En fait, ce qui sûrement est à prendre en compte pour l'avenir, c'est la question de la présence humaine. Mm-hmm. On peut avoir des outils technologiques, d'alerte. Ce qu'il faut pour un incendie, c'est pouvoir, s'il se déclenche malheureusement, malgré toutes les précautions qui ont été prises, il faut pouvoir l'éteindre très rapidement. Et l'intervention humaine est sûrement un point sur lequel il faut que nous travaillions encore plus.
C'est là que ça avait péché, évidemment. On se souvient de ce qui, quand on est revenu en arrière sur les circonstances de l'accident, on se souvient que c'est par là que ça avait péché aussi. Le temps d'appeler les pompiers, une seule personne pour faire le tour et constater qu'il y a un incendie, etc.
Et l'eau peut aussi faire des dégâts. J'ai en mémoire sur une magnifique cathédrale qui est Albi, hein, la cathédrale Sainte-Cécile, qui serait extrêmement fragilisée si de l'eau se déversait sur les peintures qui sont sur ces murs. Donc c'est là aussi beaucoup de précautions qui doivent être prises, et c'est ce que nous faisons avec l'équipe du ministère de la Culture.
Alors en parlant de précautions, je vois les questions tomber dans cette direction-là, je vais les prendre dans ma voix parce qu'il nous reste très peu de temps. L'inquiétude des habitants qui risquent de souffrir de la pollution au plomb, qu'est-ce qu'on dit une bonne fois pour toutes pour rassurer ce voisinage très voisin de cette cathédrale? On va rappeler quand même que 300 tonnes de plomb ont fondu dans cette nuit-là.
Alors,
et pas seulement.
Le préfet de région et le directeur de l'Agence régionale de santé ont communiqué lundi l'ensemble des données. Mmh. La situation liée au plomb est prise en compte. On ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'il y a eu un effet Notre-Dame. Il y a du plomb évidemment qui s'est déposé. Sur les quantités, l'ensemble du plomb n'a pas fondu. Une bonne partie est restée encore sur site. Donc il ne faut pas non plus laisser penser que 400 tonnes de plomb sont parties, ont été vaporisées. Mmh. C'est beaucoup plus nuancé que cela. Et je crois qu'il faut se référer aux excellentes études que l'Agence régionale de santé a produites sur le sujet.
Donc concrètement, il ne doit pas y avoir d'inquiétude. Allez-y,
non,
Christophe.
J'ai la chance d'avoir mon bureau au 6e étage qui touche presque la rose nord du pignon nord de la cathédrale. Nous avons fait, bien entendu, au diocèse de Paris et à la Fondation Notre-Dame, des relevés pour s'assurer que les choses étaient conformes à ce qui peut être un usage normal. Est-ce qu'on pouvait revenir ou pas? La réponse est oui. On sait que les populations les plus exposées sont les femmes enceintes et les enfants. S'agissant des écoles, la rentrée a été retardée par le directeur diocésain de l'enseignement catholique en lien avec les directeurs pour les écoles privées. Ça a été le cas des écoles publiques également. Des mesures ont été faites sur plusieurs centaines d'enfants pour s'assurer que, eh bien, il y avait 3 cas. Pour 2 d'entre eux, on s'est aperçu que certains d'entre eux léchaient le balcon de leurs parents. Donc c'était contaminé de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêter la plus grande attention, évidemment. Hein. Mais les choses sont très relatives. Quand on mesure sur le parvis les choses, il y a encore un taux de plomb émis assez fort. Et puis, à quelques mètres de là, sur le trottoir qui longe l'Hôtel Dieu, on est sur des normes presque inférieures à ce qu'on trouve à d'autres endroits de Paris, vous voyez. Donc il y a une relativité, une complexité aussi, bien entendu, très très grande pour arriver à prendre en compte la réalité des choses.
Pierre, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Allez-y, Pierre.
Je me posais simplement une question. Est-ce que Notre-Dame est assurée comme son appartement ou sa maison?
Alors merci beaucoup. On a évoqué cette question un petit peu en début d'émission. Christophe Charles Rousselot, vous voulez répondre ?
Non, mais c'est à l'État de répondre. Peu importe, qui n'assure pas
forcément ses bâtiments. L'État est son propre assureur.
Ouais. En ce qui concerne l'église de Paris, la cathédrale, donc, assure quelques objets qui dépendent de sa propriété, puisque l'essentiel appartient à l'État. Et donc, l'hôtel, par exemple, l'hôtel principal, était un peu assuré. Mais enfin, ça ne couvrira pas, évidemment.
On peut imaginer la prime d'assurance, la lit d'un bâtiment comme celui-là. C'est peut-être un petit peu compliqué. J'ai juste une toute dernière question pour vous. Avant qu'on se quitte, est-ce que l'entrée dans l'hiver, la météo difficile, il commence à pleuvoir, il va finir par faire froid, est-ce que ce sera une gêne pour ce qui reste à faire, pour notamment par exemple l'échafaud dont on parlait tout à l'heure ? C'est une gêne ou pas ?
Alors, bien sûr, les aléas climatiques font partie, et c'est pour ça qu'on dit un délai de 4 à 6 mois est nécessaire. En fonction du vent, quand on a monté les cintres qui pèsent 8 tonnes, vous imaginez bien que si le vent est trop fort, ils ne peuvent pas être posés.
Je pense aux milliers de personnes qui viennent tous les jours, pour lesquelles il va falloir trouver un accueil. On ne va pas laisser pendant 5 à 7 ans dehors, vous voyez.
Et ce sera l'occasion d'une prochaine émission, tiens, puisqu'on me dit dans l'oreille qu'il y a de la publicité, c'est tout de suite maintenant.